Ben, il va faire chaud aujourd'hui, mais il va aussi y avoir des orages, des espèces de perturbations, souvent amenées par justement les écarts de température importants. Alors, averses ou orages tôt ce matin, alternant soleil-nuage par la suite, 40% de risque d'averses en après-midi, mais il y a aussi un risque d'orage cet après-midi. Il va faire 32 degrés aujourd'hui, donc très humide et chaud. 40 degrés à l'humidex, ça c'est la sensation sur la peau. Quelques nuages pour la nuit prochaine, 21 degrés. Du soleil pour jeudi et vendredi avec 34 et 35. Et pour la fin de semaine, ce qu'on entrevoit, ce sont des averses, mais du temps chaud, 28 et 27 degrés. Il fait 23 en ce moment à Montréal. Bien sûr, on parle beaucoup de la COVID-19 dans les différents quotidiens. Et c'est le cas dans le journal La Presse ce matin. Où on dit que le docteur Horacio Arruda, qui est directeur national de santé publique, est plutôt tenté de rendre obligatoire le port du masque au Québec dans tous les endroits publics, les édifices publics, comme l'a annoncé la mairesse de Montréal avant-hier. Et donc, il évalue très fortement cette possibilité. Il nous en a parlé hier sur nos ondes en disant que si ça continue de cette façon-là, ben on va devoir se rendre à cette solution pour essayer d'enrayer, de ramener les gens des meilleurs sentiments. Parce que là, le problème, c'est que oui, on a baissé la courbe, puis c'est vrai que les statistiques sont bonnes, mais c'est les efforts qu'on a faits depuis plusieurs mois qui ont amené justement cet abaissement de courbe, et on ne voudrait surtout pas que ça reparte dans l'autre sens. Mais François Legault, lui, tenait une conférence de presse à Saint-Jérôme hier. Et il était pas mal moins enthousiaste que le docteur Arruda. Il a simplement indiqué ne pas exclure la possibilité d'imposer le port du masque. Mais ce qu'on sent, c'est que lui souhaiterait davantage que ça vienne de par la population elle-même, qu'on crée une sorte d'habitude, entre autres en l'imposant dans les transports en commun, et que par la suite, les gens le portent de plus en plus. Moi, hier, je suis allé me promener un peu, puis à l'extérieur, en tout cas, il y a pas grand monde qui le porte, là. Ça, je dirais une personne sur 20 qui le porte à l'extérieur. À l'intérieur, c'est un peu mieux. J'ai remarqué qu'à l'épicerie, il y a peut-être un peu plus de gens qui le portent, mais il reste quand même encore du travail à faire pour convaincre les récalcitrants, n'est-ce pas, à le porter. Et l'initiative de Montréal ne fait pas l'affaire de tout le monde non plus, parce que il y a des maires de municipalités environnantes qui disent, ben c'est pas notre job à nous autres d'imposer le port du masque et de passer des règlements là-dessus. C'est ce qu'on lit dans Le Devoir ce matin. Entre autres, le maire de Mascouche, Guillaume Tremblay, lui, il dit, c'est inconcevable que le masque soit obligatoire dans les commerces, les restaurants, les bars de la ville de Montréal, sans l'être dans l'ensemble de la communauté métropolitaine de Montréal. Je m'entretenais hier avec des amis qui vivent dans la région de Charlevoix. Je vais vous dire une chose, la région de Charlevoix en ce moment, comme plusieurs régions, là, comme le Saguenay, comme le bas du fleuve, comme aussi la Gaspésie, même la Côte-Nord, sont actuellement assaillis, j'allais dire, par le tourisme montréalais. Il y a énormément de touristes qui viennent de Montréal, ou de la région de Montréal, parce que c'est le grand centre, bien sûr, et qui se rendent en région là-bas. Et moi, je parlais à une personne, entre autres, qui est dans le milieu touristique, qui travaille dans l'industrie touristique, puis eux autres sont bien contents de ça, là. Ils se plaignent pas de ça, au contraire, ils disent, malgré la pandémie puis les problèmes qu'on a eus avant, on a une des meilleures saisons touristiques en ce moment qu'on n'a jamais eues, là. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens. Sauf que ça inquiète certains résidents. Il y a même des gens qui se sont fait dire « Retournez donc chez vous » par certains résidents. Pas les commerçants, mais certains résidents. On me dit que l'accueil est quand même très chaleureux, puis on est bien content d'avoir des touristes montréalais, c'est sûr. Sauf qu'on s'inquiète du fait que les gens quittent Montréal, ils viennent donc dans des régions comme ça où il y a très peu de cas de COVID-19, puis personne ne porte le masque en région. Alors ça inquiète les gens, parce que on me disait hier, ben écoutez, si on l'impose à Montréal, ça doit être parce qu'il y a un risque. Ces gens-là partent de Montréal, puis ils arrivent chez nous, puis ils ne se masquent pas, ils prennent pas de précautions. Alors le message était lancé, n'est-ce pas, aux gens de Montréal de dire, ben si, au moins ayez la courtoisie de porter le masque, puis de faire attention, puis de respecter la distanciation. Sinon, ben ça pourrait avoir des conséquences fâcheuses. Et on en a parlé beaucoup là de ce fameux party qui a eu lieu dans la région. De Saint, voyons comment ça s'appelle la région, c'est Saint-Chrysostome, voilà. Eh bien, on revient là-dessus dans le journal La Presse Plus ce matin. Excusez-moi, je cherchais ma feuille puis je viens de la trouver. C'est pour ça que j'étais un peu déconcentré. Mais en fait, on revient sur ce party-là pour expliquer comment ça s'est passé à l'intérieur. Le journal de La Presse Plus fait vraiment a des bons contacts pour être capable justement d'expliquer cette fameuse fête qui a eu lieu le 28 juin à Saint-Chrysostome. C'est en Montérégie. Où il devait y avoir une dizaine de personnes au départ, puis on s'est ramassé à plus de 60. Et là, il y a des témoignages, dont cette jeune fille qui refuse d'être nommée parce qu'elle est mineure. Elle dit, ça dansait collé comme dans un party d'ado d'avant la pandémie. Elle a 16 ans, elle est arrivée parmi les premières à la soirée parce qu'elle voulait donner un coup de main pour l'organisation de la fête, mais elle dit, vers 22 heures, tout le monde, on avait perdu le contrôle. Puis là, elle dit, plusieurs amis se sont présentés avec des personnes qui n'étaient pas invitées à la soirée. C'est le principe des open house, là. T'invites 10 personnes qui, elles-mêmes, ont invité 3 personnes, qui, elles-mêmes, en ont invité 4, puis finalement, tu te retrouves avec une soirée qui est incontrôlable. Elle dit, on essayait d'empêcher les gens d'entrer, mais c'était difficile, le monde n'écoutait pas, ils avaient bu. Elle dit, je mesure 5 pieds, c'est pas évident de bloquer l'accès aux gens. Bref, plein de monde sont entrés dans la maison. Et elle a même, elle, contracté la COVID-19 lors de ce rassemblement. Elle a également contaminé sa mère. Alors, vous pouvez voir l'impact que ça peut avoir. Et il y a un autre jeune homme qui était là, lui, qui s'est présenté à la fête. Il pensait qu'il y aurait une trentaine de personnes, mais c'était plutôt le double qu'il y avait. Puis il dit personne ne faisait attention. Et selon lui, c'est pas 20 personnes qui ont été contaminées là-bas. Il dit, c'est au moins, il dit, moi, je connais au moins 30 personnes qui ont été déclarées positives à la fête. Et lui-même est tombé malade. Il a contaminé 3 membres de sa famille. Son employeur a dû fermer ses portes. Alors, vous voyez à quel point ça a un impact direct, comme une espèce d'effet boule de neige, finalement. Et ça a des conséquences qui peuvent être assez importantes. Les autres conséquences de cette pandémie, c'est des conséquences économiques et on va l'apprendre aujourd'hui de façon très importante lors de la mise à jour financière du ministre fédéral des Finances, Bill Morneau, qui devrait annoncer, selon le journal Globe and Mail, un déficit excédant les 300 millions de dollars. Imagine, 300 milliards, excusez-moi. J'ai dit millions, c'est des milliards, c'est 1000 fois plus. Et selon des sources du Globe and Mail, ce montant ne compte même pas les programmes normaux du gouvernement. On ne compte que le déficit depuis le début de l'année financière en cours, qui a commencé au 31 mars. Alors imaginez, là, si on ajoute toutes les autres dépenses du gouvernement, ça va excéder vraisemblablement les 300 milliards de dollars. On aura plus de détails là-dessus, bien sûr, un peu plus tard aujourd'hui. Pendant ce temps, l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, essaie de donner de l'information aux différents pays, aux différents gouvernements pour qu'ils puissent prendre des décisions adéquates en cette pandémie. Et là, ben, l'OMS est financée de façon importante par les pays du monde, c'est un organisme qui relève de l'ONU. Or, le président américain Donald Trump a officiellement lancé hier la procédure de retrait des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé qu'il accuse d'avoir tardé à réagir face à la pandémie du coronavirus. En fait, lui, ce qu'il trouve, c'est qu'on est trop doux avec la Chine. Il dit, c'est à cause de la Chine, puis tout ça, blablabla, fait qu'il boude. Donc, il décide de se retirer. Sauf qu'heureusement, le retrait n'est pas automatique. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu dis, OK, je me retire, que tu arrêtes de contribuer. Il y a des ententes internationales qui font en sorte que les États-Unis, qui sont le bailleur de fonds le plus important de l'OMS, va se retirer au terme d'une procédure qui pourrait durer un an et demi. Alors, c'est pas automatique. Il va peut-être y avoir un changement de gouvernement d'ici là qui va revenir à des sentiments meilleurs, mais c'est pas une bonne nouvelle, en fait. Même si on a beaucoup critiqué l'OMS, là, à peu près tout le monde a été critiqué, d'ailleurs, qui a eu à gérer cette crise-là dans tous les pays, les grands pays de la planète. Mais il reste que, évidemment, c'est une décision qui est décriée, entre autres, par
les scientifiques. Il y a un nouveau livre aux États-Unis qui fait grand bruit en ce moment, qui va sortir le 14 juillet prochain. C'est un livre qui s'appelle « Too Much and Never Enough ». How my family created the world's most dangerous man. Alors, je traduis, trop et jamais assez, comment ma famille a créé l'homme le plus dangereux du monde. Alors, c'est un livre qui est écrit par une femme qui s'appelle Mary Trump, qui est la nièce de Donald Trump. C'est la fille, en fait, du frère aîné de Donald Trump, Fred Trump Jr., qui est décédé en 1981 des suites de son alcoolisme. Bref, elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a réuni des documents, puis elle a aussi réuni des témoignages de sa famille pour tracer un portrait qui est peu reluisant du président américain, dont on dit qu'il a grandi dans une famille dysfonctionnelle dirigée par un père dominateur et qui a contribué à faire de lui un menteur narcissique. Alors, il y a de larges extraits de ce livre-là qui ont été publiés hier dans le New York Times et dans d'autres publications également aux États-Unis. Là, c'est un livre de 240 pages qui a été écrit par cette psychologue de 55 ans. Il y a trois choses qui retiennent l'attention dans ce livre-là, entre autres. Dans le livre, Mary Trump décrit la situation, le soutien en fait que Donald Trump a reçu de son père comme essentiel à ses tentatives de créer une image de lui-même en tant que maître de l'univers. Son père, en fait, son père rabrouait ses enfants, tout ça, sauf Donald Trump, en qui il voyait une espèce de comment dire, de véhicule de ses idées un peu extrémistes. Donc, mais il l'a élevé pour faire en sorte qu'il devienne le personnage narcissique sans émotion qu'il est aujourd'hui. Elle dit, et là je cite le livre, « Son réconfort à dépeindre cette image ainsi que la sécurité matérielle que lui reprochait, procurait pardon, la richesse de son père, lui ont donné une confiance non méritée pour réussir ce qui, même au début, était une mascarade, se vendre non seulement comme un riche playboy, mais aussi comme un brillant homme d'affaires self-made. » Et donc, elle raconte également dans le livre comment, quand le père de Donald Trump est mort, comment il a essayé de faire changer le testament de son père pour tout recevoir et laisser ses frères et sœurs sans le sou. Bref, elle dépeint un personnage qui n'est pas très reluisant. Mais il y a eu une réaction à la Maison-Blanche hier, évidemment. Hier, à la Maison-Blanche, la porte-parole de la Maison-Blanche, Kelly McEnany, en tout cas, elle a dit « C'est un livre mensonger. C'est un livre qui... » Elle dit « Je n'ai pas encore lu le livre, mais c'est un livre mensonger. » Alors voilà. Elle ne l'a pas lu, en tout cas. Mais il reste que ça vient de l'intérieur. Et ça, ben, ça va donner un sérieux coup à la crédibilité de Donald Trump quand ça vient de la famille, toujours un peu plus dur. Coup fumant pour un promoteur, c'est un article du Journal de Montréal qui s'est attardé à la vente des terrains de Radio-Canada. Vous savez que Radio-Canada va déménager dans sa nouvelle résidence qui est en construction juste l'autre côté de la rue, là, au cours des prochains mois. Or, Radio-Canada a vendu les terrains et tout le kit au cours des dernières années. Et Radio-Canada assure qu'elle a obtenu le juste prix en revendant ses immenses terrains du centre-ville en 2017 pour 42 millions. Mais, trois ans plus tard, celui qui a acheté pour 42 millions est en train de revendre le quart des terrains, la partie du stationnement là, qui est plus à l'ouest, si on veut, là, pour 114 millions de dollars. Une partie des terrains seulement. Alors, Vincent Chiara, qui est un des plus gros joueurs de l'immobilier à Montréal et celui qui avait remporté cet appel d'offres en 2016 pour acheter le quadrilatère au complet. Or, il a ensuite morcelé le terrain, selon ce que dit le Journal de Montréal, conclu une entente avec le promoteur Devimco pour lui vendre une partie qui correspond au stationnement dans la partie sud-ouest du terrain. Et Devimco veut construire là-bas une tour à condo, 15 étages. Elle était la meilleure d'un point de vue financier et qualitatif, selon ce qu'écrit le directeur des relations publiques de Radio-Canada, Marc Pichette. Alors, eux autres, ils disent « Non, on a vendu ça comme il faut. Il fallait tenir compte du fait qu'il y avait de la décontamination à faire, tout ça. » Mais, en tout cas, le marché a sans doute évolué rapidement depuis trois ans, si on en croit, en fait, cet article-là. Et tiens, qu'y a-t-il d'autre? Ah ben, il y a des gens qui sont un peu sceptiques de ce nouveau joueur du monde de l'aviation qui veut en fait devenir une espèce de transporteur vers les destinations sud, le nouveau transporteur aérien québécois qui s'appelle OWG. C'est pas facile à dire, là. Moi, j'aurais trouvé un nom un petit peu plus simple si j'étais à la place de Nolinor, parce que c'est une filiale de Nolinor, qui devra sortir un lapin de son chapeau, dit-on dans la presse plus, si on veut parvenir à concurrencer Air Canada, Transat, Sunwing et WestJet vers le sud. En fait, OWG a acheté 3 appareils, des vieux Boeing 737-400, qui vont servir justement à cette liaison à bas prix vers le sud. Et selon Mehran Ebrahimi, qui est professeur à l'Université du Québec à Montréal et spécialiste de l'aéronautique, il dit « S'ils ne sont pas intéressés à couper les prix, s'ils n'ont rien d'extraordinaire à offrir, comment vont-ils attirer les gens? » Ben, on posera la question aux gens de Nolinor un peu plus tard, parce qu'on va leur parler justement de la création de cette nouvelle entreprise. Tiens, hier à cette heure-ci, je vous parlais de ce fameux perroquet bleu perdu à Rouyn-Noranda. Ben, sachez qu'il a été retrouvé. Whisky a été retrouvé à 11 heures hier matin. Il s'était enfui de la résidence lorsque la porte était ouverte. Puis là, ben, il se promenait dans le secteur de Rouyn-Noranda. Heureusement qu'il y a une canicule, parce que c'est pas des oiseaux qui sont faits pour notre climat, bien sûr. Or, hier, il était sur une branche d'arbre pas très loin de la maison. C'était pas trop éloigné. Alors, ils ont réussi à monter dans l'arbre et aller le chercher. Et on dit, la propriétaire, Julie Saint-Pierre, dit même que, selon elle, le perroquet était en détresse. Il cherchait de l'aide. Et c'est pour ça qu'il s'est rapproché, pour ainsi être ramené à l'intérieur. Cet oiseau qui n'avait jamais connu la liberté ne l'a pas apprécié, apparemment.